création
on air.
On air.
On air.
Creation on air.
Bonsoir. Ce soir, nous sommes conviés à un exercice. Interroger la façon dont nous écoutons le monde. Les vibrations sonores provoquent des formes, et à partir d'elles, Isabelle Sordage constitue des empreintes sonores. Son premier cobaye est Edmond Baudouin. Il décrit ce que ces étranges lignes évoquent pour lui. Il cherche et finit par produire des sons avec sa bouche, très proches de ceux qui ont produit cette empreinte. Carole Robinson, Luc Carléo, Neil Bex, Renaud Le Dantec, Éléonore Bach, Jacques Pourchet, Eliane Radig sont soumis à la même expérience. Aucun d'eux n'a connaissance des sons qui ont produit ces images. Empreinte sonore, par Isabelle Sordage et Gaël Gillon, création On Air.
Empreinte sonore. Tous les souffles témoignent de la vie. Il faut les laisser vivre. J'ai écouté les sons traverser les matières en pleine masse, faire trembler les murs et l'espace immobile, briser les verres, tournoyer dans les nefs. Je les ai vus devenir des souffles dans les cavités et balayer les flammes. Je les ai vus disparaître ou se dissiper comme des ombres, devenir des trames et tisser des paysages étranges et délicats. Je les ai vus devenir musique, sculpture et dessin. Les sons sont autant d'intrusions dans nos vies que de mondes à découvrir. Ici, la salle est sombre. Le sol, recouvert de moquettes, confère à la pièce une ambiance feutrée. Par terre, un certain nombre d'objets. Câbles, haut-parleurs, miroirs, boîtiers. Les murs sont peints en noir, sauf un, dans lequel une immense parabole blanche est encastrée. Un léger son en occupe le foyer. Au milieu de la pièce. Il est en substance part de l'infime, de la cellule ou du point. Lorsqu'on y place la tête, des lignes sonores apparaissent et circulent autour de nous pour dessiner des formes. Je sculpte l'espace avec le son, accompagné de cette pensée que la réalité est peut-être un rêve physique. Plus loin, une pièce dans laquelle a été construite une cloison qui présente 5 ouvertures étroites et verticales. Derrière celle-ci, des capteurs convertissent la lumière en son. Mes mouvements, jusqu'au plus petit, ont inévitablement une influence sur l'éclairage ambiant. J'écoute ma présence en tant qu'ombre. J'écoute les nuages passer. J'invente de nouveaux reliefs. Plus loin, une plaque de métal recouvre en partie le sol pour de nouvelles expérimentations. J'aime m'attarder sur la phase expérimentale qui préexiste à l'œuvre jusqu'à l'ordre métaphysique de sa pleine réalisation. Aujourd'hui, je prépare des empreintes sonores. J'ai posé un haut-parleur sur la plaque de métal, à côté, un bac que j'ai rempli d'eau et au fond duquel j'ai placé un miroir. J'y diffuse un son de basse fréquence et de faible intensité. J'observe l'eau qui reste apparemment immobile. Pourtant, lorsque j'éclaire le miroir, une projection se produit au-dessus de moi. Là, apparaissent des lignes lumineuses. Je les observe s'organiser en lignes parallèles, plus ou moins évasées, plus ou moins régulières, se répéter sur toute la surface, puis s'entrecroiser en petits quadrillages lorsque j'augmente l'intensité du son. J'entends quelques impacts sur la plaque de métal, mais la plupart des sons restent presque inaudibles. Je peux juste les regarder. L'onde sonore tisse littéralement des trames dans la matière qu'elle traverse. Pour saisir ses formes, je place une feuille photosensible face à la projection lumineuse. Je réalise ainsi des empreintes sonores. Je décide d'envoyer à mes amis artistes quelques-unes de ces empreintes. Je choisis les lignes parallèles correspondant à un son animé de basse fréquence, doux et d'intensité légère. Et puis les quadrillages beaucoup plus forts et présents. Bien sûr, aucun des artistes n'a connaissance des sons qui ont produit ces motifs. Je leur demande alors de les imaginer ou de formuler une réponse à ces images. Vont-ils ressentir la présence de l'eau, sa masse, le métal conducteur, les basses fréquences et l'intensité de certaines d'entre elles? Ou porteront-ils leur attention à l'immatérielle beauté de ces sons presque inaudibles? Thank you.
quelle est la vérité intérieure d'un son,
oui,
et d'une musique.
Carol Robinson, compositrice. Chère Carole, tu as porté ton attention à l'immatérielle beauté du son venu changer la matérialité du présent. Savais-tu que l'idée de musique trouve son origine au cœur de l'inaudible et de l'invisible?
Ce sont des instantanés, ils sont arrêtés, et on a l'impression en les regardant que ça continue dans tous les sens. Là, c'est juste un petit cadre, une petite vision. J'étais très intriguée par ce qui a fait des carreaux.
Oui, là, on a une structure en carré, sur une petite carré.
Voilà, des carrés. Et donc, toi, tu sais quelle était l'origine musicale ou sonore de chaque image. Mais moi, ça me fascine de savoir que les ondes tissent des autres... Enfin, des structures à l'intérieur. On a d'habitude de savoir que ce sont des ondes qui ondulent.
Qui ondulent et qui pensent à des vagues, finalement.
Voilà, ça, ce sont des choses que on a nous sommes habitués à voir. Mais cette autre façon que... Est-ce que c'est parce que des choses sont bien accordées ou ce sont des partiels qui se mettent en place ou, qu'est-ce qui fait qu'il y a des traits dans les deux sens, horizontal et vertical, si tu veux, qui fait cette espèce de dessin en carré. Donc, j'étais bien intriguée par ça. C'est comme regarder à travers un filet. Ce sont des carreaux et on a l'impression qu'on ne voit que la surface qui est en fait d'autres couches qui ne sont pas capturées dans l'image. Et ça aussi, on se pose la question, ceux qui font des carreaux sont des ondes qui vont dans un sens ou autre, et pourquoi est-ce qu'ils se sont reliés pour faire des structures? Et est-ce que les structures sont interdépendantes, comme un tissu qui devient plus fort parce que des fils individuels se sont liés? Donc ça intrigue. On a envie de voir quelle est l'origine, quels sont les instruments, quels sont les sons, et j'aurais bien aimé savoir quelle était la durée d'exposition au son pour créer ces images. Est-ce que c'était 30 secondes, 30 minutes? Et pourquoi ces images-là se sont définies? Est-ce qu'il y avait un constant dans la musique ou le son? Ou est-ce qu'il y a une évolution? Et s'il y avait une évolution, pourquoi cette vérité-là était relevée et pas une autre? Mais ça m'a posé des questions. Quel son se rapproche à ça? Et comme nous nous sommes rencontrés autour de la musique d'Eliane Radig, qui, comme d'autres musiques, va à l'intérieur de son, qui ouvre le son pour faire sonner toutes ces voix. Ce n'est pas par hasard que tu recherches la même chose dans ces images. Et comme je suis sensible à cette démarche dans cette musique et les miens et dans d'autres compositeurs aussi, c'est normal que ça me parle, même si je ne les entends pas, mais je les ressens. D'accord. J'ai cherché des sons, donc ça c'est un bol japonaise basique avec plein de couleurs. Mais j'entends toute une vie dans le son de ce bol, mais je dis, ah, c'était pas le bol qui a fait ces images. Ce sont d'autres ondes et il y a toute une évolution en moins de ce qu'on perçoit. Qui est différent de ces images-là. Mais donc j'ai continué un petit peu des explorations. J'ai pris un corps de basset. Donc je voulais voir les interactions avec le bol, parce qu'encore une fois, je suis très intriguée par l'image à carreaux. Pourquoi les ondes se sont structurées, où il y avait une interaction, où ils ont fait des interstices pour créer une telle image. Donc, pas grande chance. La note de mon bol est une note que je peux jouer avec une seule main. Parce que c'est compliqué à faire sonner le bol et jouer la corde basse. Donc on va voir déjà, en jouant une note, comment ça influence les vibrations du bol. Parce que tout à coup, des vibrations s'entrelacent, un peu comme ce que je vois dans les trois images proposées. C'est presque comme si le corps de basset révèle des vibrations. C'est comme un filtre, un peu comme ce que avait fait Isabelle. Donc on entend qui est présent, mais le mariage révèle quelque chose. Je ne dirais pas que c'est plus magique, mais une autre étape. J'ai essayé avec d'autres notes aussi, n'est-ce pas? Donc j'ai un choix entre le partiel aigu ou une espèce de ce que j'appelle un shadow tone, donc un son d'ombre qui fait aussi partie de la note, mais souvent on les enlève, ces notes là on dit le son n'est pas pur, mais en fait ça c'est une voix de l'instrument aussi, il faut parfois l'encourager à le faire, mais c'est possible.
Luc Carléo, plasticien. Cher Luc, je t'ai envoyé ces empreintes sonores et tu nous lances dans l'exploration d'un foisonnement de micro-événements que tu as pressentis, micro-variations, micro-altérations, les agencements sonores de l'espace présagé deviennent l'espace lui-même. Tu me dis, chère Isabelle, j'avais envie de te faire écouter ça. L'image que tu m'envoies est probablement le reste d'un processus physique en cours. C'est un état gelé de quelque chose de mouvant. Quelque chose s'est produit, réellement produit. Un phénomène physique. Mais imagine un détective qui, travaillant à résoudre une énigme, n'aurait accès qu'à des photos de la scène du crime, alors que dans le lieu réel se trouvent des indices peut-être déterminants. Je réfléchis. Le marquage du papier paraît fragile ou léger. Le papier semble teinté plutôt qu'imprimé ou peint. Il n'est pas recouvert. Je pense au procédé des rayons X. Il y a quelque chose de présent autour de nous, mais qu'on ne voit pas. Mon regard tombe dans ce qui est imprimé, comme en sautant ou en se donnant une impulsion. Puis il en sort et doit à nouveau sauter dans une autre trame visuelle. C'est comme s'il fallait traverser à pied une surface qui serait autre chose que le sol. On ne saurait pas comment s'y maintenir. J'ai donc cherché à créer un son qui apparaisse dans son milieu, comme ces images bizarres font irruption dans notre environnement visuel habituel. Neil Beggs, plasticien. Cher Neil, tu as pressenti l'eau et les ondes. Tu m'écris. Chère Isabelle, j'ai passé du temps à me demander quoi faire avec cette image. Mon approche s'est construite étape par étape. Et j'ai considéré chacune d'elles comme un nouvel événement suivi d'un effondrement de l'ancien état. Voici donc les étapes. Je reçois ton mail et je choisis une image. Je passe beaucoup de temps à penser quoi faire avec elle. Après un certain temps à contempler le projet, une sorte d'effondrement se produit. Une idée semble sortir de nulle part. L'idée consiste à imprimer l'image et à enregistrer le son de l'imprimante au moment de l'impression comme s'il s'agissait d'une onde. En même temps, je pense au film « Papillon ». Précisément à ce moment où Steve McQueen plonge dans la septième vague. C'est une connexion étrange. Puis, j'importe le son de l'imprimante dans Logic Pro et convertis l'audio en une partition MIDI. C'est la deuxième étape de la transition. Je fais la même chose plusieurs fois, avec le même enregistrement audio, mais chaque exportation est un peu différente. J'écoute le résultat. Je passe plusieurs jours à essayer de trouver un résultat stable, quelque chose que j'aime. Finalement, je trouve quelque chose d'intéressant qui me mènera à l'étape suivante. Les fichiers se composent entièrement de partitions MIDI, transposées à partir du son original de l'imprimante. Je pense que je vais produire une impression de la partition pour ces deux pistes, comme une œuvre en deux dimensions. Le processus de fabrication de ces œuvres audio est important, car c'est à travers lui que j'ai pu traduire l'image que tu m'as donnée. Renaud Le Dantec, musicien.
Mon univers, c'est plutôt la musique acoustique, finalement. Donc, oui. Le piano, c'est l'instrument que je peux le mieux jouer. Enfin, j'essaye, quoi. Et il faut que je fasse du piano. Il faut que je fasse du piano, mais plutôt comme qui génère un son. Il ne faut pas que ce soit trop court, donc il faut qu'il y ait quand même une forme, mais qu'il ne faut pas trop de forme non plus.
D'accord. Et toi, tu voilà. as choisi le motif avec le quadrillage.
Alors, les quadrillages, ouais. Alors, ça m'a... Dans mon quotidien, en fait, un peu analyse et tout ça musical, j'ai vu des intervalles purs, c'est-à-dire quarte et quinte. J'ai pensé à ça. C'est ce que ça m'a inspiré. Et je me suis dit, voilà, si je fais des sons, des séries d'accords, en fait, qui auraient l'impression de tourner un peu toujours en rond, sans issue,
d'accord.
et qu'il n'y a pas de développement, en fait, c'est juste un moment de musique qui commence, et on a l'impression qu'on le prend en cours, on ne sait pas trop si c'est le début, la fin, le milieu.
Un petit peu comme le format, finalement.
Bah c'est ça, on ne sait pas trop, c'est cadré au centre, on ne sait pas ce qu'il y a autour, mais c'est pareil pour moi, quand je vais jouer, ça sera ouais. une pièce qui s'arrête, ben, bon, d'accord, elle s'est arrêtée, quoi.
Okay.
mais on ne sent pas que ça ne se prépare pas, et du coup, il n'y a pas de progression, il n'y a pas de climax, il n'y a rien de tout ça.
Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, finalement, c'est quelque chose.
Ouais, après, comme c'est d'improvisation, il y aura peut-être une part d'imprévu, enfin, que je ne peux pas maîtriser, donc j'aurais peut-être envie quand même de lui donner une... Parce qu'il y a quand même une forme, parce qu'elle n'est pas, c'est pas très régulier quand même. Donc je vois qu'il y a des petites vibrations à des endroits, il y a comme des petits accros dans la trame. Donc il y en aura sans doute aussi. Voilà. mon état d'esprit là-dessus. J'étais bien branché pour commencer par l'autre en fait. Si ça te...
C'est le...
ouais,
celle-ci.
Alors c'est celle qui est grise,
oui,
mais peut-être que
avec
c'est.
Avec ses motifs, donc
voilà.
on est sur des lignes parallèles.
Oui.
Avec des traits un peu plus fins.
C'est ça, moi je vois des...
Un trait épais, un trait fin, un trait épais.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Moi je voyais... Alors, parce que j'ai pensé d'abord à une vibration, quelque chose qui serait juste une petite onde sur le piano, ouais. dans un petit secteur de l'instrument, un médium, avec très chromatique forcément pour pas qu'on perçoive quelque chose de tonal, parce que sinon, c'est pour moi, c'est hors sujet. Hein. Donc, il faut que ce soit juste un climat. Et pour garder la vibration, j'ai un peu piqué dans les jouets de mon petit garçon. C'est des petits jouets en plastique, c'est une sorte de dinette, alors c'est des petits légumes en plastique. Donc, j'ai pris une petite salade, une pomme de terre, tout ça. Et c'est en plastique très léger, donc un peu à l'image des balles de ping-pong que d'autres artistes utilisent. Donc, c'est sur les cordes et ça maintient la vibration. Alors, c'est à moi après de garder ça en vibration sans parce qu'évidemment si on joue plus fort ça part, alors il faut pas que ça parte, dans mon idée il faut que ça reste un peu sur les bonnes cordes pour que je maîtrise ça au bout des doigts. Tu veux qu'on y aille, on peut essayer,
on y va,
que je ricole un peu d'abord, mais les poids, les salades, voilà, un petit peu avant. Ah, celui-là que j'aime bien, c'est l'épi de maïs. Ça. Il est plus. Il gratte un peu en fait. Et ben voilà.
Thank you.
Chère Éléonore, la vérité de l'être transparaît à travers l'œuvre et la pensée qui l'accompagne. Tu as établi l'inventaire nuancé d'une pensée sonore. Tu as pressenti l'eau, sa présence, ses mouvements, sa masse et la vibration. Tu me dis, chère Isabelle, cela a été un plaisir d'écoute analytique mise à l'épreuve. À part les cloches, tous les sons, y compris ceux de l'eau, ont été fabriqués de manière artificielle. Certains ont été retravaillés au niveau des réverbérations et des effets binauraux. Éléonore Bach, plasticienne.
Première image, on voit une grille sur laquelle se détachent deux mouvements évasifs de gauche à droite. Image 2, on voit une grille régulière avec des points très lumineux qui saute aux yeux. Ce mouvement, cette illuminescence, touche alors la rétine. Sur les deux, on constate une grille. Sur la première image, la grille est plus large. Sur la deuxième, elle est moins large, plus régulière. La comparaison visuelle permet quand même de constater que malgré la différence de ces grilles, il s'agit bien, disons, de la même masse. Rappelons-nous que les deux images sont bien une reproduction de quelque chose de sonore. L'appareil photographique détecte donc le son et son mouvement. Ce mouvement étant mécanique dans un premier temps, et la grille régulière le montre bien. Or, il y a un deuxième mouvement qui s'y rajoute, qui est alors le son en convolution avec autre chose. Parce que si on compare les deux images, toutes deux parlent certes de la mécanique du son, mais dévoilent des réalités spatiales différentes. Ces réalités se lisent alternativement en surface et en profondeur. Nous balayons et plongeons donc. La grille représente des plans successifs. Nous voyons une grille de points lumineux qui se dresse en premier plan, une grille moins lumineuse en second plan, et le noir en troisième plan. Cela nous parle ici, peut-être, de la forme que puisse avoir cette impulsion. Le signal semble être perturbé. Il rencontre peut-être un obstacle, un peu à la manière de l'eau, qui contourne, voire sautille par-dessus une pierre, ce qui rend le mouvement évasif, masque la mécanique antérieure du signal et confère à l'image un aspect un peu opaque, un peu laiteux. Je parlerai alors du mouvement mécanique du son, donc à l'intérieur du signal, mais aussi d'un mouvement mécanique de quelque chose à l'intérieur certes de l'ensemble, mais qui n'a rien à voir avec l'impulsion première propre du signal. Comme l'image ne propose ni de fin ni de début de cette traînée, je ne peux que la regarder dans son mouvement interne. Parce que ce mouvement interne est tout autre que celui du signal pur, parce qu'il perturbe le signal, je parle de gestuelle, c'est-à-dire d'action, sur le comportement de ce signal. Et ici, c'est bien la machine qui le perçoit. La machine regarde donc des perturbations. Lorsque nous regardons cette image, ce sont ces perturbations mêmes qui conduisent notre regard. Nous percevons alors deux figures et leur traînée latérale évasive.
deux figures qui se détachent d'ailleurs sur un fond en plusieurs plans, ce qui donne un aspect cinématographique à la chose.
Le signal apparaît alors comme quelque chose qui vient de rien, quelque chose qui surgit du néant et qui serait de plus en plus près. Alors en réalité, le son est quelque chose qui s'en va, qui nous échappe donc, qui échappe aussi à la machine et au travers la machine à notre conscience. Or, à la regarder de près, encore une fois, nous sommes bien témoins du départ d'une particule qui voyage. Cela soulève alors plein de questions. Jusqu'où pouvons-nous entendre et suivre les sons dans leur voyage? L'instrumentalité de la machine est de voir en quoi impacte-t-elle notre perception? En quoi sont-ils instruments de la créativité de l'écoute? Est-ce que le noir dans l'image et donc le silence apparent est une potentialité sonore? Représente-t-il donc des sons en devenir? Je pense ici par exemple à Lars Fredriksson, l'insistance avec laquelle il introduit le silence comme quelque chose de plein.
Cher Edmond, un jour tu as écrit « J'ai osé laisser courir mon pinceau noir sur les surfaces blanches en jouant simplement avec les vides et les pleins, les silences et les sons. Un trait commence quand on le pose sur du papier avec un pinceau, mais en vérité, il était dans la main bien avant. » Edmond Boudouin, dessinateur.
En général, les images des sons que tu me montres, ça me fait penser à de l'eau, à de la surface de l'eau. Mais c'est des vibrations, hein, c'est des vibrations sur l'eau. Non pas comme on jette un caillou dans l'eau, non, c'est autre chose, c'est quelque chose qui prend toute la surface. Bon, après, ensuite. Je travaille beaucoup sur la question du son, ou moi j'appelle de la musique. Avec le dessin, évidemment, un trait horizontal fait une musique qui n'est pas la même qu'un trait vertical. Et en tout cas, ce qu'on met dans le pinceau ne produit pas la même sensation, le même son. Si cette surface, si je la regarde verticalement dans ma musique, ça fait oui, 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 hein, comme ça. Si c'est horizontal, ça fait C'est pas le même son que si je mets vertical ou horizontal. Donc, si moi-même je les emploie dans... Si une bande dessinée, c'est absolument pareil. Hein. Si je fais une case longue, longue horizontale, ça fait un son aussi. Si je la fais longue verticale, ça fait un autre son, des sons comme je viens de dire. Donc je me sers aussi de donc la dimension de la case, si elle est carrée, si elle est rectangulaire, c'est pas le même son qu'un grand rectangle qui prend toute la page ou un rectangle toute la hauteur. Je ne cesse jamais d'employer des sons. Après, ces sons-là, ils sont dans une musique que je viens de faire. Hein. J'entends là, quand je fais cela, c'est quand même un son qui est rectiligne. Hein? Alors que, en vérité, il est plus complexe sur la, parce qu'il y a des sons de toute manière verticales, même quand je la mets horizontale, qui sont des vibrations qui viennent. Ça ferait pas. Mais là, avec la voix, comment faire ? Et pareillement pour celui d'en dessous. Donc il est strié de quelque chose. Ça peut être une voix de quelqu'un, ça peut être quelque chose qui est fait avec un gong. Ça peut être un gong, mais ce gong, à un moment donné, on a mis le doigt dessus, ou légèrement l'ongle, qui a fait que il y a eu des choses, des verticalités à l'intérieur de son qui allait comme à la surface de l'eau, comme des rainures d'une pierre qui tombe dans l'eau, et on n'aurait qu'une partie de ces ondes dans l'eau. Et même dans un espace de cette carte, il y a comme un fantôme, il y a donc eu quelque part une goutte qui s'est rajoutée à la surface de l'eau, ou si c'est pas une goutte, c'est quelque chose avec non pas une vibration, mais une absence là. Il y a un trou, là, il y a quelque chose, un fantôme qui est venu, un fantôme. Alors, si je disais toute la musique générale de ça, comment la faire? Avec tous les traits, hein, tout à l'heure j'ai fait, mais avec l'ensemble, ça ferait comme... Alors, je vais de gauche à droite, la musique de cela. Faut que je prenne la respiration. Quelque chose comme ça.
T'es pas loin, hein? Parce que moi je connais les sons, je sais que les sons que j'ai fait, tu n'es pas loin.
Si je refais, c'est pas aussi. La fin n'est pas. C'est quand même plus liquide que ce que j'ai fait là. Au début, c'est très liquide. Hein. C'est un son très liquide, mais qui a envahi le haut de la carte. Donc, et le fantôme vient en dessous. Donc, c'est.
Cher Jacques, chacun de tes dessins est enrichi de l'écoute qui renouvelle le regard. Eliane y reconnaît sa musique. Eliane Radigue, compositrice. Jacques Pourchet, plasticien.
Je travaille beaucoup sur la ligne, c'est un travail que je fais depuis 20 ans, 30 ans. Donc c'est la ligne qui me convient, qui pour moi exprime la musique. Et avec Eliane, c'était une rencontre tout à fait intéressante parce que j'ai senti que chez elle, la musique, elle est très tenue. Enfin, elle se déplace très lentement, même elle est presque immobile parfois. Et c'est comme ça que je suis venu à essayer de transformer l'audition en picturalité.
Oui, parce que là, on a un instantané et on a pourtant... il n'est plus question de temporalité. Hein. Tout est dit dans cette image.
Oui.
Il peut s'agir de 5 minutes, 3 secondes, 1 heure, 3 heures. Et toute sa musique est là. Et en plus, il s'agit réellement de lignes. Les vibrations que ça produit dans l'air et notamment dans l'eau offrent des lignes plus ou moins fines, plus ou moins régulières.
Oui, là, je travaille avec différents crayons noirs, différentes mines de plusieurs épaisseurs, plusieurs densités. Il y a des mines plus grasses et des mines plus sèches. Et alors, il y a aussi l'appui de la main sur le papier aussi, plus ou moins fort. Et ça amène à une certaine... on se sent un peu partir dans un monde musical. C'est quand je travaille sur un musicien, j'essaye de connaître un petit peu sa vie, ce qu'il a fait, parce que c'est très important aussi. Et après, j'écoute maximum de son œuvre, et puis je fais coexister les deux sentiments que j'ai eus entre la vie de l'artiste et son œuvre. Et puis je fais une espèce de synthèse que je mets sur mes papiers. Mais c'est pour ça que je peux très bien faire un dessin sur Eliane tout en écoutant un disque de jazz, par exemple. Parce que j'ai pénétré son œuvre et je sais où elle va, ce que je veux faire, et j'ai plus besoin de ce support. Thank you.
Tout le temps me vient comme ça à l'esprit la non-musique d'Isabelle, puisque a une dimension, tridimensionnelle, dans tous les sens du terme, parce qu'aussi bien volumétrique, puisqu'il y a quand même une certaine épaisseur de l'eau, il y a la dimension ondulatoire vivante, qui est la vibration même du son, l'essence même du son, et il y a évidemment aussi le son même, puisque c'est produit à partir d'un son instrumental. Ceci étant, ce n'est pas de la musique.
C'était Empreinte sonore avec Carole Robinson, Luc Carléo, Neil Beggs, Renaud Le Dantec, Éléonore Bach, Edmond Baudouin, Jacques Pourcher, Eliane Radig. Une émission d'Isabelle Sordage, réalisation Gaël Gillon, prise de son Marc Garvenès, mixage Manuel Couturier. Attaché de production Inès De Bruyne, coordination Irène Omelianenko.
Vous retrouverez sur le site de France Culture deux autres émissions d'Isabelle Sordage, Quarantaine et Paysage pur. La semaine prochaine, dans Création on Air, mercredi, Le souffle de l'arpenteur par Yves Robic, jeudi, Piano et servitude par Andrea Cohen. Place à Philippe Garbi pour les nuits de France Culture.